Visiteuse nous a remarqué que le thème comment sortir de l'échec était peut-être tout à fait approprié parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites difficultés d'organisation. En ce qui me concerne, donc effectivement, je suis psychanalyste. Je n'ai pas du tout la prétention de faire une conférence parce que ce n'est pas du tout ma vocation. Et j'ai le désir de partager avec vous, si vous le voulez bien, plutôt une expérience. J'ai été moi-même en névrose d'échec longtemps. J'ai fait une analyse, je suis devenue didacticienne analytique et c'est vrai que j'ai le souci, au travers aussi de la revue, de désacraliser une science qui, fort heureusement d'ailleurs, s'ouvre de plus en plus et qui est de moins en moins abordée comme quelque chose de très intellectuel. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas de micro-baladeur. Moi, je serais plutôt partisane de vous donner la parole lorsque vous le désirez. Il y a très peu de temps, en fait, pour intervenir. C'est vrai que moi, j'avais prévu des axes très complets. Mais donc, on va essayer de faire les choses de façon plutôt sympathique. Alors, j'ai fait un dessin extrêmement sommaire. Je vais le compléter, je vais l'animer très rapidement de façon à ce que vous arriviez à peu près à situer ce qu'est la psychanalyse. La psychanalyse traite de l'inconscient. Nous avons un conscient. On peut prendre pour exemple un individu qui désirait arrêter de fumer. Il voit son médecin, c'est un patient tout à fait sérieux. Le médecin lui explique qu'il est obligatoire qu'il arrête de fumer. Bien qu'il y ait un désir conscient, eh bien, ce patient ne va pas pouvoir arrêter de fumer. Alors dans l'entourage, on pourra dire qu'il manque de volonté. En fait, il se passe des choses tout à fait différentes puisqu'il y a une vie inconsciente. Vous savez que le maître de la psychanalyse est Freud. Donc Freud s'est rendu compte qu'il y avait une organisation psychique un petit peu compliquée. Donc inconscient, effectivement, je veux arrêter de fumer, des leviers de commande inconscients et je vais essayer de vous expliquer donc sommairement comment les choses se passent. Alors, les premiers travaux de Freud sur l'appareil psychique remontent à 1900, donc où il avait relativement simplifié l'organisation de la psyché. Donc le conscient, qui quelque part peut être apparenté à nos conduites dites d'échec, c'est pas fatalement péjoratif d'ailleurs, puisque c'est aussi lié à une maturité ou à une immaturité pulsionnelle. L'inconscient, donc, où se trouvent les leviers de commande. Encore une fois, si je n'arrive pas à trouver de travail ou si je n'arrive pas à faire de régime, eh bien, il y a une vie qui est très indépendante du conscient. Pourquoi ? Parce que il y a une espèce de barrage entre l'inconscient et le conscient, donc appelé préconscient, qui intervient également quand, par exemple, on essaie de se souvenir du nom d'une cousine ou du prénom d'une cousine. On discute et puis tiens, ça disparaît. Bien effectivement, ce barrage va provoquer donc ce qu'on appelle un refoulement. Hein, c'est-à-dire qu'alors que les mots pourraient venir, eh bien, ils se resituent au niveau inconscient. L'inconscient est un petit peu assimilé à l'inavouable. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, si j'ai des difficultés en fait à obtenir ce que je désire au conscient, vous savez que les leviers de commande se situent ici. Freud s'est rendu compte qu'il était insuffisant d'aborder les choses de façon aussi simpliste, donc il a redivisé cet appareil psychique. Donc là, on parle de première topique 1920. Ses travaux sur la deuxième topique ont été élaborés sur une vingtaine d'années, donc on les situe en 1920. Il y a donc ce que l'on appelle en psychanalyse deux instances, le ça et le surmoi. Le ça est un principe de plaisir débridé qui ne connaît pas les limites. Et il va se heurter à un censeur, à un juge, à un arbitre, le surmoi. Il y a une lutte qui est perpétuelle. Lorsque nous sommes malades, même s'il s'agit d'une simple grippe, il faut savoir qu'entre le ça et le surmoi, il y a dispute. C'est-à-dire que le ça, donc encore une fois, qui est vraiment une instance de plaisir, va se heurter à une espèce de raison très rigide. Et donc, c'est ce qui va provoquer ce qu'on va appeler les somatisations. Alors, la psychanalyse, effectivement, est un travail qui est un travail en profondeur, puisque Alors que les psychothérapies traitent du conscient, avec un engagement plutôt directif du thérapeute, la psychanalyse traite de l'inconscient. Cette vie, donc, qui est cachée, est rendue accessible par le langage, puisque la psychanalyse est donc une analyse du langage. Effectivement, lorsque nous parlons, nous émettons des sons que l'on peut appeler phonèmes. Eh bien, c'est cette écoute des phonèmes qui, en fait, va nous dire ce qui bloque, tout simplement. Alors, effectivement, c'est un apprentissage qui est spécifique. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui est véhiculé en règle générale. Un psychanalyste est quelqu'un qui fait des études. Vous avez deux sortes de professionnels en psychanalyse. Vous avez le psychanalyste qui est de formation médicale, donc qui est médecin, mais qui doit faire des études qui ne se font pas en règle générale sur les bancs de la fac, puisqu'en fait, nous sommes obligés d'étudier le transfert. Et puis, vous avez les psychanalystes de formation philosophique et linguistique que Freud préférait. Curieusement, alors qu'il était médecin, il trouvait, et c'est toujours d'ailleurs le cas actuellement, qu'un psychanalyste de formation linguistique s'attaque beaucoup moins aux symptômes, puisque le symptôme va en fait être une base de travail pour le thérapeute. Alors, je crois que j'ai un plan qui avait été annoncé. Merci. Voilà, alors, comment écouter l'inconscient ? Lorsque on va chez un analyste, bon, là aussi, c'est très caricatural, les gens, comme ça, ont des clichés enregistrés, on s'allonge sur un divan et puis on parle. Alors, c'est pas exactement ça, il y a deux possibilités d'aborder l'analyse. Effectivement, on peut tout à fait faire un travail allongé, mais surtout, le psychanalyste est payé donc pour écouter donc ce qui se passe dans cette vie inconsciente. Donc ça peut tout à fait être en face à face. À l'inverse d'un thérapeute qui, lui, va rester donc sur ce qu'on va appeler le langage, c'est-à-dire sur un discours qui est tout à fait conscient. Donc le psychothérapeute va renvoyer quelque part cet échange en donnant même son avis. Eh bien, effectivement, donc ce qu'on va appeler les explicites, eh bien, par contre, un analyste, lui, va travailler sur l'inconscient, donc sur les phonèmes, et va renvoyer le transfert en rebondissant donc sur des expressions qui sont souvent ambivalentes. Si nous prenons, par exemple, dans une phrase, le terme « foi », F-O-I-S, eh bien, il y a plusieurs écritures différentes. Donc, on va appeler « contre-transfert » la récupération par l'analyste de cette ambivalence, et l'analyse, sans que le patient s'en rende compte, va donc permettre de discuter avec l'inconscient au niveau donc du désir. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce niveau-là ?